La parenthèse de Sankara sera de courte durée. Le 15 octobre 1987, alors qu'il se rendait à un conseil des ministres extraordinaire, il est assassiné dans un putsch qui laisse Blaise Compaoré seul au pouvoir. Il n'avait que 37 ans.
Mais Thomas lui-même a eu la prémonition de dire « On peut tuer Thomas, on peut assassiner Thomas, mais des milliers de Thomas naîtront. » Donc si la vérité, le procès établit la vérité, que Thomas a été tué pour avoir aimé son peuple, les milliers de Sankara qui vivent actuellement porteront le rêve Thomas.
Voilà, merci beaucoup Salwa. Et à présent, nos invités pour le débat de Ouagadougou, Ismaël Diallo, ancien député et ancien diplomate, toujours dans la capitale burkinabé, Richard Tchéné, journaliste, réalisateur du film Thomas Sankara, l'humain, et à Montréal, au Canada, Aziz Salmon Fall, le politologue, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Merci à tous d'être avec nous. Ismaël Diallo, beaucoup comparent Sankara à Che Guevara, mais pour beaucoup d'Africains, Sankara, c'est Sankara avec son idéologie et sa vision de l'Afrique. À l'époque, voir un homme treillé au pouvoir n'était pas exceptionnel. Alors pourquoi tant de jeunes à travers le continent ont-ils embrassé son idéologie?
Beaucoup de jeunes ont embrassé son idéologie parce qu'il représentait l'air du temps. Et représente encore l'ère du temps. Les jeunes font une rupture avec tout ce qui s'est passé avant. Ils veulent une Afrique debout, une Afrique indépendante, une Afrique résiliente, une Afrique fière, une Afrique décomplexée. Des femmes libérées, des femmes égales aux hommes, et tout à fait complémentaires. Voici ce que...
Alors Richard, vous avez travaillé pendant 7 ans sur ce film et vous dites que ce film c'est toute une vie et pourtant pendant la révolution burkinabé, vous étiez à l'école primaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui déjà à ce jeune âge et qui vous a ensuite suivi un peu dans votre vie?
Oui, ce qui m'a fasciné c'est que... À l'époque, quand vous essayez de voir un peu à quoi ressemblaient les chefs d'État dans la sous-région ouest africaine, Sankara, il dégage un charisme, il est très jeune. Hein, on le voit point levé, on le voit tout enthousiasmé dans sa façon de faire les choses.
Vous dites qu'à l'époque...
Il brûlait le protocole.
Voilà, vous dites que vous étiez fier de dire à vos camarades ivoiriens qu'il était le plus beau, le plus jeune président d'Afrique.
Oui, à l'école primaire, ça nous faisait marrer. On se disait, notre président, il est beau, il est jeune. Et au-delà de ça, c'est le discours. Et c'est cet engagement. On n'avait jamais vu, moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Déterminé aussi... engagé aussi fort physiquement et même dans le discours, il était convaincant, il m'a convaincu. D'accord. Et j'étais fier d'être justement burkinabé et il nous a aidé aujourd'hui à avoir une certaine dignité qui était perdue à une certaine époque.
D'accord.
Voilà, et c'est tout ça. Alors... qui a motivé l'organisation de ce film.
Qui est d'ailleurs nominé au prochain FESPACO qui démarre la semaine prochaine. Alors Aziz Salmon Fall, vous faites partie de ceux qui, au plan international, se sont battus pour la tenue d'un procès. Enfin, une première audience s'est tenue le 11 octobre. Le continent, comme vous le savez, a connu d'autres assassinats de chefs d'État. Pourquoi celui-ci est particulièrement important, ce procès?
Alors, la campagne internationale Justice pour Sankara est une campagne panafricaine. Donc, nous avons des avocats burkinabés, africains du continent, qui se sont tous interposés lorsqu'on a approché la période de prescription et que Mariam Sankara a déposé sa plainte. Donc, ça fait 25 années qu'on a épuisé tous les recours de l'État parti à l'époque. Effectivement, c'est la question de l'impunité. Tous les gens qui ont lutté pour la souveraineté, que ce soit Lumumba ou Cabral, sont morts en toute impunité et le Grilla, auquel j'appartiens, a choisi effectivement de faire de cet exemple, qui était la dernière révolution, c'est-à-dire un changement des rapports de production, un exemple pour l'Afrique souveraine et panafricaine. Et donc, c'est pour ça que ce procès est important, parce que c'est un pan de la France, France-Afrique et un mode néocolonial de croissance qui est en train de s'effondrer. Et dans cette forme de résistance qu'elle oppose actuellement aux panafricains, il y a un rapport de force. Ce rapport de force a basculé. Le président a été exfiltré par la France en Côte d'Ivoire, un pays qui l'a aidé à déstabiliser. Il refuse de comparaître, mais nous avons au moins maintenant un État qui va inspirer cette chose-là, et c'est pour nous et pour tout le continent africain une petite lueur d'espoir dans ce système de France-Afrique qui se désagrège.
Donc pour vous, ce procès, ça doit servir d'exemple, c'est un cas d'école pour tout le continent, quoi.
C'est déjà un cas d'école. Nous avons marqué un précédent au niveau des Nations Unies. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique qu'on gagne des droits au niveau de l'assassinat d'un chef d'État. En 2006, nous avons obtenu des droits pour la veuve. Mais nous savons pertinemment que ceux qui sont actuellement dans le box des accusés ou ceux qui sont à l'extérieur par contumace ne sont pas les seuls. Il y a aussi des commanditaires. Vous savez, il y a Charles Taylor qui s'est échappé des prisons américaines, prison fédérale qui a été exfiltrée par les services américains. Il y a des gens en France qui ont été impliqués dans ce coup. Il y a des gens dans la sous-région qui ont été impliqués dans ce coup. Ce n'est pas une petite minute de soldats. C'est vraiment un système beaucoup plus vaste.
D'accord. Et pour vous, Ismaël Diallo, quelle est l'importance historique d'un tel procès? Est-ce qu'il va œuvrer en faveur de la réconciliation nationale ou rouvre-t-il des plaies?
Il y a deux aspects. D'abord, pourquoi ce procès? Pour mettre fin à l'impunité et pour montrer que quel que soit l'homme, la personne humaine qui arrive au pouvoir et qui commet des exactions, il faut de la justice. Donc il n'y a aucune raison pour que l'auteur ou les auteurs, les co-auteurs de l'assassinat de Sankara ne fassent pas échapper à la justice. Il n'y a absolument aucune raison. Sinon, on encouragera encore ce genre de forfait. C'est vrai que les assassinats de rois, de présidents, ont existé depuis la nuit des temps, mais ce n'est pas une raison pour qu'on s'en accommode tout le temps. Maintenant, concernant la réconciliation, beaucoup au Burkina pensent que ce procès va contribuer à la réconciliation. Personnellement, je ne le pense pas. Et je fais un grand écart entre les deux. Il y a un procès pour ne pas laisser prospérer une impunité, et il y a la réconciliation qui est tout autre chose. Pour une réconciliation, je me permets de dire qu'on n'a pas besoin de grande messe. Il faut reconstituer l'état de droit, la justice pour tous, combattre l'impunité et la corruption, et tout le monde saura se mettre ensemble.
Alors, Richard, en tant que journaliste, donc témoin de l'histoire, et burkinabé, qu'est-ce que vous attendez de ce procès?
Ce procès pour le Burkina Faso, c'est un procès entre enfants du Burkina. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un procès qui va essayer de nous réconcilier avec nous-mêmes. J'attends beaucoup de ce procès parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Il n'y a pas que Thomas Sankara qui est tombé. Il est tombé avec 12 autres compagnons. Et les familles de ce compagnon de Thomas Sankara cherche à comprendre. C'est vrai que Thomas Sankara, du fait de son canisme, est mis en lumière à travers ce procès, mais pensons aux 12 autres qui sont là, leur famille déplorée. Donc j'attends que ces familles-là retrouvent. On ne pourra jamais leur envoyer leur enfant, mais qu'ils sachent au moins ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent se réconcilier avec eux-mêmes, leur conscience, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un père soit tué avec une telle, quand même avec une telle violence, parce que c'était des morts violentes. Donc, c'est un peu ça. Et au-delà de ce procès, après ce procès, il va falloir voir aussi, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a eu pas mal de crimes politiques au Burkina Faso. Il va falloir voir les autres cas, les autres assassinats politiques, pour qu'enfin le Burkina Faso puisse avoir la vérité sur tous ceux qui sont tombés du fait de leur opinion politique, du fait de leur choix, leur orientation politique. Et c'est n'est qu'à cette condition-là que je pense qu'on pourra parler enfin de réconciliation, pas seulement en comptant que sur le procès Thomas Sankara.
D'accord. Alors, Aziz, si le procès se termine sans Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafondo, le chef présumé du commando qui a assassiné, aurait assassiné Sankara en tout cas, et ses 12 compagnons, est-ce qu'il n'y aurait pas, selon vous, un goût d'inachevé et de des commanditaires, comme vous le disiez aussi, plutôt des commanditaires présumés?
Alors vous savez, l'essentiel de nos avocats sont sur place avec notre veuve. Moi-même, personnellement, j'ai refusé d'y aller parce que Blaise Compaoré n'est pas dans le box des accusés. Mais comme je dis, c'est ce petit goût d'inachevé qui symboliquement, pour l'instant, reste un problème juridique. Mais dans tous les cas, il sera condamné par contumace si véritablement cela est démontré. On voit déjà que le tribunal militaire refuse que le procès soit enregistré pour l'histoire et les archives. Ce qui est assez surprenant, nous demandons que ce soit enregistré. Et en même temps, pour revenir sur ce que certains ont dit, il y a diverses manœuvres politiques qui jouent de la situation du pays, qui est soumis à des attaques récurrentes de cellules djihadistes pour invoquer en périphérie de ce procès l'immunité et l'amnistie pour certains des accusés ou évoquer la réconciliation nationale. Nous nous rappelons que l'important, c'est que la justice suive son cours en toute sérénité et impartialité. Et nos avocats vont continuer l'œuvre marathonienne de la campagne jusqu'à l'obtention de la vérité de la justice. Et nous appelons tous les peuples du Burkina Faso et d'Afrique de nous soutenir dans ce dernier effort.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore à N'Djamena nous dit « Le procès Sankara est une histoire qui tente de s'écrire. Nous souhaitons que la lumière s'étende sur l'obscurité afin de situer les responsabilités à bas l'impunité et la justice des plus forts. » Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « Procès historique, il aurait fallu que Blaise Compaoré soit présent, mais hélas. » Et puis Charles Bazema à Ouagadougou nous dit « Ce procès serait intéressant si tous les accusés étaient là. Tout compte fait, nous les Burkinabés et les Africains resterons sur notre faim. » Voilà, merci de rester fidèles à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. De VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum. Le lancement du procès de l'assassinat de Thomas Sankara est le fruit d'une longue bataille judiciaire de sa famille, d'intellectuels et d'activistes au Burkina Faso et au niveau international. Beaucoup sur le continent et ailleurs espèrent que justice sera enfin rendue à l'issue de ce procès qui devrait durer des mois. Un reportage de Henry Wilkins à Ouagadougou avec le récit de Blanche Sanou.
Aluna Traoré est le seul survivant de l'attaque qui a tué l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et 12 autres personnes en octobre 87. Monsieur Traoré était le conseiller juridique de Sankara. Nous sommes à l'endroit où Sankara, toujours considéré comme un héros national au Burkina Faso, est décédé. En revisitant le site, Aluna Traoré se souvient du jour de l'assassinat.
Des tirs qui nous intimaient lors de sortie. Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas. Nous dit, c'est de lui qu'on a besoin. Il est sorti donc par là, par lui Oui, nous sommes rentrés par là et le président, lui, il est rentré par là.
Les analystes disent que Sankara était une figure populaire qui a eu une grande influence sur la façon dont les gouvernements étaient dirigés dans la région.
Il représente pour certaines personnes le Che Guevara d'Afrique de l'Ouest, car il mettait l'accent sur les problèmes de base, donc en se concentrant vraiment sur le bien-être des gens ordinaires.
14 prévenus sont accusés d'avoir commis l'assassinat ou d'avoir comploté, y compris d'anciens responsables militaires et politiciens de haut rang. Le principal accusé, le successeur de Sankara à la présidence, Blaise Compaoré, ne sera toutefois pas présent à ce procès devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Compaoré a été évincé par une insurrection populaire en 2014 après 27 ans de règne et il vit depuis en exil en Côte d'Ivoire. Ses avocats ont dénoncé un procès politique. L'un des avocats de la famille Sankara s'attend à ce que le procès dure 4 mois et affirme avoir amassé des preuves irréfutables contre les accusés.
Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus, parmi les militaires, les civils, les politiques, de l'époque de Thomas Sankara, de l'assassinat, et je pense qu'il constitue un faisceau d'indices suffisant. Oui, juste un exemple typique et patent, le chauffeur qui a conduit le commando pour l'exécution, il est vivant et il témoigne très clairement sur cette question.
Maître Mathieu Soumé représente l'un des prévenus, Gilbert Diendieré.
Nous avons un contexte qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés, où les gens ont déjà leur jugement, mettant donc en péril la présomption d'innocence, mettant en péril les grands principes du procès équitable.
Néanmoins, le procès a captivé l'attention de tout le Burkina Faso. Comme beaucoup d'autres, Aluna Traoré a hâte de voir quelle vérité va émerger.
Merci beaucoup Blanche et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum de Ouagadougou, Ismaël Diallo, ancien député, ancien diplomate, toujours dans la capitale burkinabé, Richard Tiené, journaliste et réalisateur du film Thomas Sankara, l'humain, et à Montréal au Canada, Aziz Salmon Fall, politologue, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Alors, Monsieur Diallo, plus de 3 décennies après la disparition de Thomas Sankara, une question simple, que reste-t-il du sankarisme aujourd'hui?
Il reste l'idéal, il reste le rêve, il reste tout ce qu'il a dit et qui est encore très actuel. Prenez n'importe quel discours de Sankara il y a 35 ans, il y a 36 ans. Faites le réécouter aujourd'hui, c'est comme s'il avait été prononcé ce matin. Tous les thèmes qu'il a évoqués sont encore actuels au Burkina et partout en Afrique.
Et Richard, quand vous entendez tous ces débats aujourd'hui sur les relations entre l'Occident et l'Afrique, le féminisme, la question de la dette, le panafricanisme, etc., pour vous, le projet Sankara, il est toujours vivant?
Pour moi, le projet, le programme de cette période révolutionnaire à travers son écho Thomas Sankara, ce projet, il est toujours vivant. Parce que ce soit les questions en rapport avec le réchauffement climatique, sous l'ère Sankara, il y avait la lutte contre la menace justement du réchauffement climatique à travers les 3 luttes. Il interdisait la coupe abusive du bois, la divagation des animaux ou les feux de brousse. Aujourd'hui, tout le monde crie justement au réchauffement climatique. Sankara avait anticipé. Et je pense que l'un des héritages les plus sincères qui va s'inscrire dans le temps que Sankara a légué, c'est justement cette dignité, cette fierté d'être burkinabé, à travers même la désignation du nom du pays, Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. C'est un grand héritage qui couvre un certain nombre de choses. C'est-à-dire c'est en même temps un débit pour le peuple burkinabé.
Alors, Aziz Salmon Fall, en tant que panafricain, je vais être un peu provocateur. Je vous pose la question, le projet de Sankara pour son pays et pour le continent, était-il idéaliste, trop ambitieux, comme certains peut-être le pensent? Est-ce qu'il tient toujours?
Il s'agit d'une utopie réalisable. Il était complètement à contre-courant de ce qu'il était en train de se tramer, c'est-à-dire les ajustements structurels, l'intégration au forceps de l'Afrique dans une mondialisation néolibérale. Lui, il vient complètement à contre-courant en refusant de payer la dette, refusant et en posant l'idée qu'il faut non pas la gestion de l'enlisement qui s'est passé dans les 30 années qui ont suivi, mais plutôt qu'on compte sur nos propres forces, qu'on libère les forces vives des forces rurales, qu'on permette à la condition féminine de changer et d'être davantage émancipée, de changer le rapport avec l'impérialisme en soumettant effectivement un grand marché intérieur de biens de consommation de masse africain. Donc c'est clair qu'il était à contre-courant et l'impérialisme ne pouvait pas supporter ce qui allait se passer.
Et dans le contexte actuel,
pertinent. Il est toujours actuel. Vous savez, dans le temps long, ça n'a pas changé. L'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit réussir à faire le rêve sankariste à l'échelle continentale. Et nous sommes déjà en train d'avancer. Je pense que vous le voyez dans les gesticulations nécessairement de la France actuellement, avec le contre-sommet qu'il y a eu dans le sommet Macron. Il y a effectivement une Afrique qui refuse cette intégration inégale dans la mondialisation. Nous voulons d'autres formes de partenariat, nous voulons la souveraineté de nos ressources nationales, effectivement, comme toute formation sociale qui se respecte. Donc une indépendance véritable. Donc son projet est toujours actuel et c'est pour cela que les panafricains avancent.
D'accord. Ismaël Diallo, si je pose une question pour vous, qui sont les vrais héritiers de Sankara aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Dans la société civile, les universitaires, qui sont-ils?
Ils sont là, mais les vrais sankaristes ne se font pas beaucoup entendre.
Pourquoi?
Parce qu'il y a tellement de brouhaha. Et il y a tellement d'opportunistes et de sankaristes de la 25e heure que ceux-là préfèrent se taire. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, la nature est en horreur du vide. Il faut bien que le champ soit occupé. Mais il y a des vrais sankaristes, il y en a, croyez-moi, au Burkina et hors du
Burkina. Tout à fait.
Ils se feront certainement entendre.
Et vous, Richard, comment est-ce que vous voyez le sankarisme aujourd'hui? Qui l'incarne pour vous?
Je partage le point de vue de M. Diallo. Effectivement, les jeunes, justement, c'était ça l'objectif de faire une telle production, un tel film. Parce qu'ils sont nombreux à se réclamer de l'idéal de Thomas Sankara, jeune comme ancien, mais qui, dans les faits, dans la pratique, sont aux antipodes des valeurs véhiculées par Thomas Sankara. Les sankaristes aujourd'hui, c'est contre le bout du doigt, parce que c'est une transformation de mentalité du sankarisme. C'est d'accepter un certain nombre de sacrifices et de s'orienter véritablement vers un certain sacerdoce. Il n'est pas donné à tout le monde parce que les gens sont plus dans leur cocon, ils préfèrent plus leur intérêt égoïste que de s'ouvrir aux autres, que de penser à l'ensemble, de penser à la nation, de penser au peuple, plutôt qu'à sa petite personne, à sa fierté, son ego. Je pense qu'aujourd'hui, mais on ne désespère pas, pourtant je ne suis pas pessimiste, quand vous avez suivi l'insurrection, ces jeunes qui étaient dans la rue, c'était des jeunes effectivement qui pourraient, à mon avis, s'ils allient pratique et réalité, c'est-à-dire que s'ils essaient de connaître véritablement qui était Thomas Sankara, espérons bouger les lignes au Burkina Faso et peut-être partout d'ailleurs. Mais il faut que nous, en tant que journalistes, que nous fassions connaître mieux l'homme et sa politique. Et c'est en cela que je m'engage à produire ce film.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.